RCF.
Bonjour à tous. Dans quelles circonstances priez-vous ? Non mais dites donc, allez-vous penser, de quel droit me pose-t-il une question aussi intime, la prière ? Mais oui, justement, la prière, c'est une affaire extrêmement intime. Et pourtant, on prie en collectivité aussi, chaque semaine. Et puis parfois, on prie en multitude, et cette prière est intense. Bref, c'est une question dialectique encore. Vous vous souvenez qu'au début du mois de janvier, je vous avais dit que la dialectique s'inviterait dans les émissions de paroles protestantes. Parfois, elle sort par la fenêtre, revient par la cheminée, elle est un peu comme le Père Noël, la dialectique. Alors aujourd'hui, c'est Bernard Delépine et son équipe qui s'y collent. Ils vont vous parler de la prière. Oui, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la prière et nous espérons que l'intimité et la vie collective s'y trouveront de manière joyeuse, tout autant que rigoureuse.
Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission, accompagné de Jean-Didier Rousseau, ainsi que de Daniel et Bernard Delépine. Vous êtes tous trois très actifs à l'église baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors Abraham est un nom connu, mais qui est-il et de quelle origine est-il ?
Mais en fait, Abraham est connu des trois religions monothéistes, comme il est dit souvent. En fait, il est originaire de la ville d'Ur, qu'on appelle aussi Ur, et beaucoup utilisé dans les mots fléchés d'ailleurs. Elle se trouvait en Mésopotamie, et aujourd'hui l'Irak. Sa famille est partie de là pour s'installer à Harran, une ville située dans l'actuelle Turquie. À la mort de son père Térak, l'Éternel dit à Abraham, je prononce bien Abraham, c'est seulement par la suite que Dieu change son nom en Abraham. Dieu lui dit donc, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors Abraham prit sa femme, ses serviteurs et son neveu Lot et tous leurs biens, ils étaient très riches, et ils sont partis vers Canaan. Il avait 75 ans à l'époque.
75 ans, vous dites, c'est pas tout jeune pour déménager. Oui, alors pourquoi Abraham a-t-il été choisi et d'où connaissait-il Dieu ?
Oui, alors pourquoi lui ? Eh ben, probablement parce qu'au milieu d'un peuple idolâtre, il avait déjà dans son cœur une autre perception d'un Dieu au-dessus de tout. Certainement aussi parce que ce n'était pas la première fois que Dieu lui parlait, qu'il était à l'écoute, puisqu'Abraham l'entend et il sait que c'est Dieu qui lui parle.
C'est surprenant d'entendre Dieu lui parler ainsi, non ?
Ben oui et non. On évoque souvent ici la nécessité d'entrer en dialogue avec Dieu. Et trop souvent, les gens pensent que prier, c'est s'adresser à Dieu. Et puis c'est tout. On attend l'exaucement. Mais le Seigneur veut vraiment entrer en relation avec nous. Souvenez-vous qu'il venait rendre visite chaque jour à Adam, dans le jardin d'Éden, afin de discuter avec lui. Chacun d'entre nous, nous pouvons entrer ainsi en intimité avec Dieu et dialoguer avec lui.
Alors qu'est-ce que Dieu voulait de lui ?
Ben, Dieu lui parle et lui dévoile quel est son plan, son objectif, sa destinée. Pour cela, il lui donne une promesse et il lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En fait, l'Éternel choisit un homme dans le but d'en faire un peuple. Ce peuple ne sera vraiment pas meilleur qu'un autre, mais au travers de lui, le Seigneur veut témoigner au reste de l'humanité que lui, il est. C'est le terme même de Dieu, est, il est. Et il souhaite attirer à lui les hommes qu'il reconnaisse bien au-delà du peuple hébreu.
Abraham est donc parti, mais pour aller où ?
Eh bien, il a entendu les promesses de Dieu, il y croit et il obéit sans savoir au départ où il va. Il a confiance en Dieu. Comment a-t-il su qu'il fallait aller vers le sud ? Une intuition ? On ne sait pas. L'Épître aux Hébreux nous indique que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Toujours est-il qu'arrivé à Canaan, ils ont traversé une partie du pays, et la Bible nous dit que l'Éternel lui apparut. Alors les autres fois, il lui parlait, et cette fois, il lui apparaît. Sous quelle forme, on ne sait pas, mais il lui dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ».
Postérité, pas évident parce que Sarah était stérile. Mais confiant en Dieu, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Bâtir un hôtel, à cette époque, c'était honorer Dieu. Puis il a levé le camp, il a continué le voyage pour explorer la région. Il est arrivé vers Bethel, et là, il a de nouveau bâti un hôtel et il a invoqué l'Éternel. Puis il a continué son voyage jusqu'en Égypte, suite à une famine dans le pays. Ensuite, il est remonté vers Bethel, là où il avait campé au début. Il a retrouvé l'hôtel qu'il avait bâti et a invoqué l'Éternel à nouveau.
Mais pourquoi tout ce périple pour revenir là où il était déjà passé ?
Ah ben, le voyage jusqu'en Égypte l'avait probablement éloigné un peu de Dieu. Il y avait d'ailleurs un épisode un peu glorieux, où par crainte du pharaon, Abraham a menti, ce qui aurait pu mal se finir si Dieu n'était pas intervenu d'une manière miraculeuse. Après cela, il est retourné effectivement à Bethel, là où il avait bâti l'hôtel dont parlait Daniel, et il a invoqué le Seigneur. Il existe une devise pour tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur. On leur dit « Retournez à Bethel ». D'ailleurs, il y a un texte dans l'Apocalypse qui dit « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens de ta conduite première. » Abraham est donc retourné à l'autel de Bethel où il a invoqué et adoré l'Éternel. Nous avons besoin, nous aussi, de faire le point dans nos vies et de remettre les choses en ordre pour retourner parfois au point où nous nous étions égarés. Abraham était un homme imparfait, comme vous et moi, mais il savait se remettre en question et il était fidèle à Dieu.
Donc il est de retour dans cette région. Et que se passe-t-il ?
Alors, avec son neveu Lot, il avait beaucoup de troupeaux et les bergers, ils se disputaient l'espace. Alors Abraham a proposé à Lot de choisir la région qu'il voulait et lui prendrait l'autre. Lot a choisi la meilleure, la vallée du Jourdain, bien verte et bien irriguée. Abraham a pris l'autre côté vers l'ouest, plus montagneux et plus aride. Mais Dieu lui a renouvelé sa promesse. « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. » Puisqu'il était nomade, Abraham se déplaça du côté de la ville d'Hébron. Là, il construisit un nouvel autel de prière en l'honneur de l'Éternel. Et c'est le troisième autel qu'Abraham construit.
Donc apparemment, tout se passe bien pour lui. Mais il n'y avait pas d'autres habitants dans cette région ?
Ah si, bien sûr. C'était souvent d'ailleurs de petits royaumes, quelquefois d'une seule ville, qui étaient soumis à un plus grand. Il en résultait des révoltes et des guerres. Abraham évitait ce genre de situation. Mais quand il apprit que son neveu Lot avait été fait prisonnier avec d'autres habitants de Sodome, il a rassemblé plus de 300 de ses serviteurs et il a poursuivi les ennemis, mais assez loin, puisqu'il a été du côté de Damas. Il a libéré Lot et les autres habitants. Il a récupéré tout ce qui avait été volé. À son retour, le roi de Sodome est venu à sa rencontre et pour le remercier, il a voulu lui donner tout le butin qu'il avait ramené. Mais Abraham refuse, il dit « Non, je veux rien te devoir, je préfère compter sur les promesses de Dieu. » Voilà, mais un autre roi est venu à sa rencontre ce jour-là.
Vous nous faites plein de mystères, Bernard. Et qui est ce roi mystérieux ?
Alors ce roi mystérieux s'appelait Melchisédek. Il est venu à la rencontre d'Abraham après sa victoire. Je cite l'Épître aux Hébreux. « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. » La dîme, c'est 10% des biens.
Et quand même.
Ah oui. Mais d'après la signification de son nom, Melchisédek signifie « roi de justice ». Ensuite, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et toujours selon Hébreu, on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. En tout cas, il est dit qu'il était prêtre du Dieu Très-Haut et qu'il a béni Abraham au nom du Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Et ce jour-là, il a apporté du pain et du vin pour restaurer. Au passage, c'est déjà prophétiquement la scène. Et l'Épître aux Hébreux nous montre que ce Melchisédek représentait Jésus. On appelle cela une théophanie. Mais on ne peut pas faire le tour de la question concernant ce Melchisédek. Ce n'est pas notre sujet du jour.
Merci Daniel. Avant de revenir à Abraham, prenons le temps d'une pause en écoutant Marcel Bungou interpréter « Tu peux compter sur moi ».
Si je suis comme ça, couleur de cette terre qui nourrit les hommes. Si tu es comme ça, tes yeux sont comme un ciel bleu qui donne l'espoir. Si tu viens chez moi, je t'apprendrai à ne plus vivre en solitaire. Là je suis chez toi, ton sourire me fait découvrir tous les mystères. Créature d'un monde qui rêve aujourd'hui de pouvoir s'aimer, s'accorder pour la vie, d'être né différent et vivre en harmonie. Qu'on se le dise, marche avec moi dans
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission consacrée à Abraham, appelé ami de Dieu. Dites-moi, dans cette amitié, ils se rencontrent souvent tous les deux, non ?
Alors oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais à 85 ans, c'est dans une vision que Dieu se révèle à lui. On assiste à leur premier dialogue, et c'est bien d'un dialogue qu'il s'agit. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » « Éternel Dieu, que me donneras-tu ? Je n'ai pas d'enfant et c'est mon serviteur qui va hériter de moi. Non, celui qui naîtra de toi sera ton héritier. Regarde les étoiles, tes descendants seront aussi nombreux. » Abraham a eu confiance en Dieu et la parole qu'il dit qu'il fut déclaré juste. Ce jour-là, Abraham a offert un sacrifice et Dieu a fait alliance avec lui.
Ah oui, mais comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas aussi simple que ça. Sarai, sa femme, est âgée. Elle aussi, elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors elle propose à Abraham de lui donner sa servante pour avoir un fils. Une solution toute humaine. Mais là encore, tout ne se passe pas bien entre Sarai et la mère porteuse. Et oui, une mère porteuse déjà à l'époque. Et c'est dans cette atmosphère que naît Ismaël.
Donc ça y est, c'est l'héritier annoncé ?
Ah non, non, non. Ce n'est pas celui que Dieu avait prévu, même si Ismaël est aussi descendant d'Abraham, ancêtre du monde arabe. Mais il n'était pas le fils de l'épouse légitime, Sarai. 13 ans plus tard, Abraham a 99 ans, Dieu se manifeste à nouveau à lui et lui renouvelle son alliance en lui annonçant qu'il serait père d'une multitude de nations et il lui change son nom.
Donc c'est à partir de là que change son nom donc.
Oui, oui, de Abram, qui signifie père éminent, il le change en Abraham, qui signifie père de multitude. Dieu d'ailleurs change à ce moment-là aussi le nom de Sarai en Sarah, qui veut dire princesse. Et il leur dit, ben, ce pays de Canaan sera votre propriété pour l'éternité, je serai ton Dieu et celui de ta descendance. Et le signe de cette alliance sera la circoncision. À À nouveau, Dieu annonce que Sarah enfantera un fils, et tous les deux, Eric, Abraham et Sarah, mais comment un homme de 99 ans et une femme de 90 ans peuvent avoir un enfant ? Et pourtant, un an plus tard, Isaac vient au monde. C'est un miracle. Dieu accomplit sa promesse. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps entre la promesse et son accomplissement, mais Abraham a continué à croire en Dieu et à marcher avec lui. Ce qui nous permet de nous poser cette question, mais est-ce que nous continuons à lui faire confiance quand nous ne voyons pas la réponse à nos prières ?
Question très pertinente, Bernard. Je suppose qu'il s'est passé encore beaucoup de choses dans la vie d'Abraham.
Effectivement, et comme on dit depuis tout à l'heure, on ne peut pas faire tout l'historique de sa vie. Mais venons-en à cette relation qu'entretenaient Dieu et Abraham. Ils se parlent. Au fur et à mesure, le dialogue devient plus profond. Tenez, je vous parle d'une visite importante qu'il a eue. Imaginez Abraham assis à la porte de sa tente. Il voit arriver trois hommes. Il se lève et court à leur rencontre. Il se prosterne à terre devant eux. Bon, l'hospitalité était très importante au Moyen-Orient, mais quand même, de là se prosterner jusqu'à terre...
Ce n'est pas comme ça que nous accueillons quelqu'un aujourd'hui.
Mais non. Mais Abraham a compris que ces voyageurs qui venaient le visiter étaient particuliers. D'ailleurs, il les appelle « Seigneur » et se dit être leur serviteur. On ne dit pas ça au premier passant. D'ailleurs, il a vu que l'un des trois était important. Il s'adresse à lui « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Ensuite, il leur propose de se reposer, de se restaurer, et il part leur préparer un repas. Sarah prépare des gâteaux, lui prépare un veau, et il reste près d'eux pendant qu'ils se restaurent. C'est à ce moment-là que celui qui était le plus important des trois annonce la future naissance. Mais à ce moment-là aussi qu'Abraham comprend que c'est Dieu qui est devant lui. Encore une théophanie.
Ça devait être assez impressionnant, non ?
Oui, et deux de ces hommes, des anges en réalité, sont partis en direction de Sodome. L'autre, appelé l'Éternel, est resté avec lui. Une prière que l'on appelle aussi intercession commence en forme de dialogue. Dieu dit « Je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire, car je l'ai choisi ». Alors, il lui révèle ce qu'il veut faire, punir les villes de Sodome et Gomorre à cause de leurs péchés qui dépassent les limites. Et Abraham de réagir « Seigneur, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ?» S'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Cela ne correspond pas à ta manière d'agir. Dieu lui répond, si j'en trouve 50, je pardonnerai la ville à cause de ces 50. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être n'y en aura-t-il que 45. Alors le Seigneur accepte de ne pas les détruire. Abraham est audacieux et il continue à descendre dans les chiffres jusqu'à ce qu'il y avait, s'il y en avait 30, puis 20, 10. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Abraham connaît les deux personnalités de Dieu, sa justice et son amour.
C'est à la fois impressionnant et touchant de voir cette prière insistante d'Abraham.
Et Dieu aurait-il écouté Abraham jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu cette intimité entre eux, une confiance réciproque ? Cette confiance est établie au fur et à mesure de l'obéissance d'Abraham, de la crainte respectueuse qu'il avait pour Dieu. Il était devenu l'ami de Dieu. Et Dieu dit dans Ésaïe, en s'adressant au peuple d'Israël, « Abraham était mon ami ». Et quelqu'un dans un autre texte dit « Abraham, ton ami qui t'aimait ». Abraham était vraiment ami de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait se permettre cette insistance avec respect. Il n'était pas dans la revendication, mais dans la sollicitation.
Oui, et puis certains pensent que c'était du marchandage. Mais non, non, il le fait par amour pour son neveu Lot, mais aussi pour sauver les habitants de ces villes, Sodome et Gomorre, pourtant vraiment dépravées. Sauf erreur, c'est lui, Abraham, le premier avocat, quelqu'un qui parle en faveur de quelqu'un d'autre. Avocat, avocat, ça me fait penser à Jésus qui est lui aussi appelé notre avocat auprès du Père Céleste.
Alors comment vivre une telle relation avec Dieu alors que sur le plan humain, c'est souvent compliqué ?
Ah oui, ça. Et il est vrai que sur le plan humain, l'amitié n'est pas toujours facile à vivre. On confond d'ailleurs amis, copains, camarades. Dans une relation amicale, il doit y avoir cette relation de confiance réciproque. Elle se construit dans la durée. La véritable amitié, c'est comme des fils qui se tissent. Il peut y avoir quelquefois un nœud qui coince, tel un désaccord, qui s'arrange si on ne laisse pas les choses s'envenimer. Pour devenir l'ami de Dieu, il y a bien sûr des conditions. On ne le devient pas comme ça, en claquant des doigts. Mais d'abord, il faut le connaître, avoir foi en lui. Connaître et pratiquer ses commandements aussi, hein. Jésus dit d'ailleurs dans Jean 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ah, aimer Dieu, c'est encore une grande question. Car si je n'aime pas mon frère que je vois, comment puis-je aimer Dieu que je ne vois pas? Ça, c'est encore Jean qui nous dit cela. Hein. Il doit y avoir des preuves à notre amour.
Merci Jean-Didier.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Alors vous disiez, on ne devient pas ami de Dieu si facilement. Alors comment le devient-on ?
En même temps, ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Hein. Abraham connaissait Dieu, il savait qu'il était juste, qu'il accomplissait ses promesses, qu'il était à l'écoute. Être ami de Dieu, c'est aussi être à son écoute. Alors vous me direz peut-être, mais comment être à l'écoute de Dieu ? Jésus dit par l'évangéliste Jean, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et dans un autre passage, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais comment puis-je connaître ces commandements ? Par exemple, en lisant la Bible, puisque c'est sa parole. Il me parle par sa parole et je l'écoute en lisant. C'est le propre d'une relation. Dans celle-ci, nous y trouvons plein de promesses pour nos vies. Sa lecture nous permet de découvrir la personnalité même du Seigneur, et ce de plus en plus. Hein. Son amour, sa bonté, sa patience, sa grâce, son pardon. Dans l'épître de Jacques, nous lisons « Abraham eut confiance et crut en Dieu, et ça lui a été compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. » On peut en déduire que la foi d'Abraham a eu pour résultat l'exaucement à ses prières, mais c'est aussi le cas pour nous aujourd'hui.
Tout à l'heure, vous parliez de promesses, mais quelles sont-elles ? Vous en avez à nous proposer ?
Alors, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Je vais vous en donner quelques-unes. Dans Hébreux 13, en effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Dans le psaume 23, bien connu, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le psaume 13 aussi, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien ». Et puis Jésus dit aussi dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que de belles promesses ! Il ne nous abandonne pas, quelles que soient les circonstances de nos vies.
En parlant de Jésus, peut-on nous aussi devenir amis avec lui ?
Tout à fait. Jésus était entouré de disciples qui le suivaient. Il y en avait au moins 70 qu'il a envoyés apporter la bonne nouvelle dans les villages. Mais il y avait un cercle restreint de 12 disciples qui l'ont accompagné partout où il allait. Il avait une relation particulière avec les 12, à qui il dit en Jean 15 « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ce texte nous montre comment nous aussi nous pouvons devenir les amis de Jésus et il leur a fait connaître des choses concernant le royaume de Dieu.
Donc nous pouvons tous devenir amis de Jésus, mais ce n'est pas réservé à une élite.
Heureusement pour nous. Encore une fois, tout dépend de la relation que nous entretenons avec lui. Quand on a un ami, on aime passer du temps avec lui, prendre un bon repas, nous réjouir, nous aider, nous consoler aussi quelquefois. Donc avec Jésus, il nous faut aussi passer du temps en sa présence, dans la lecture de la Bible, dans la louange, la prière, lui parler de nos soucis, de nos joies, de nos besoins. Une amie disait récemment qu'elle parlait avec Dieu, même en faisant son jardin ou en faisant sa vaisselle. Et elle lui faisait même savoir lorsqu'elle n'était pas contente. La relation va s'affermir avec le temps. Elle va s'affiner pour devenir quelque chose de vital. Jésus fait partie de mon entourage propre. Il a de l'importance. Je peux lui parler il m'écoute.
Merci Daniel. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quelqu'un aurait-il une prière ou des versets bibliques à partager en guise de prière ?
Oui, je veux bien vous suggérer une prière que vous pouvez faire vôtre, si vous le souhaitez. Jésus, je reçois ton amitié. Je veux être et demeurer ton ami. Apprends-moi à prendre du temps avec toi. Apprends-moi à savoir quand et comment tu me parles. Aide-moi aussi à être un avocat, un intercesseur, par la prière pour les autres. Seigneur, je t'aime.
Et voilà, cette émission de Paroles protestantes, vous l'avez compris, était consacrée à la prière. N'est-ce pas formidable ? La diversité, l'unité, la bonne humeur aussi, et l'esprit de sérieux. On aime jouer avec tous ces concepts sur Paroles protestantes. Sortir des clichés, c'est un vrai plaisir, vraiment. Encore une prière, j'espère que vous viendrez chaque semaine plus nombreux. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée.